En juin 2025, l'ESAD de Valenciennes fermera ses portes définitivement. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct depuis l'ESAD Valenciennes pour le troisième épisode des rencontres « Comment bien fermer une école d'art ». Nous avons lancé ce cycle de rencontres dans le cadre de la fermeture de l'ESAD Valenciennes, une école d'art et de design territorial bicentenaire. Et ces rencontres, qui rythment donc le dernier sommet de son existence, explorent des thématiques en lien avec cette fermeture, nous invitant à prendre le temps de la considérer, de discuter et d'essayer d'y trouver du sens, peut-être. La fois dernière, nous avons eu le plaisir d'accueillir Yalma Robette, Chloé Théré et Laurette Brême pour une émission nommée « Étudier avec un compte à rebours ». Nous les saluons très chaleureusement et nous ont offert une très belle et très émouvante chronologie de la lutte étudiante. Merci à elles.
Nous ne pouvons pas dire que cette perte est soudaine. Sa menace plane sur les SAD depuis plus d'un décennie. Sa certitude nous côtoie depuis 2 ans. Chaque jour au sein de l'école, nous la vivons à des échelles variables, des petites piqûres de rappel qui se vivent comme des micro-deuils du quotidien. Les derniers concours d'entrée, les derniers DENSEP et la fermeture du deuxième cycle. Les départs, la dernière rentrée, la dernière promo, le dernier semestre. Une école qui se vide, mais une volonté féroce de poursuivre jusqu'au bout du bout, de tout finir.
Ce cycle a débuté en janvier, faisant écho au début du dernier semestre de l'ESAD. Lors de la première rencontre intitulée « Le grand saut dans le vide », nous avons parlé avec l'auteur, Sophie Coiffier, de l'état de suspension entre deux mondes que nous vivons. La deuxième, intitulée « Étudier avec un compte à rebours », a été organisée par 3 actuelles et anciennes étudiantes très actives dans la lutte pour sauver l'école. Yalma Robette, Chloé Théré et Laurette Brême. Si d'une manière ou d'une autre, nous avons évoqué le deuil dans nos précédentes rencontres, de consacrer un temps à cette question.
Un deuil s'annonce suite à la perte, à la disparition de quelqu'un, de quelqu'une, de quelque chose, un aimant clé de nos vies, un repère aux valeurs affectives, symboliques, voire même matérielles. Pouvons-nous faire le deuil de cette école? Et comment? Et on dit faire son deuil, mais est-ce que cela a du sens de le faire?
Ce soir, on est super content de parler de tout ça avec Félix Casitani. Alors, Félix, on a parlé justement de ce cycle de rencontres, de cette fermeture imminente, et en évoquant un peu les sujets qu'on avait envie de discuter, le deuil, ça t'a un peu sauté aux yeux. Pour toi, ça te semblait en fait évidente, tu avais envie d'y participer, il fallait que ce soit cette rencontre et pas une autre. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter, mais aussi nous dire pourquoi ça faisait du sens pour toi de parler de ça avec nous ce soir?
Moi je suis Félix Casitani, je suis actuellement doctorant à la Vienne à Arson. Après avoir enseigné en école d'art à l'ESAD Saint-Étienne. Moi, je suis partie de l'ESAD Saint-Étienne il y a maintenant un peu plus de 3 ans, pas parce que l'école fermait, ni même parce que des postes étaient à cette époque particulièrement menacés, même si la situation a changé depuis. Mais je suis parti de l'ESAD parce qu'à un moment il y avait quelque chose qui ne m'y convenait plus et j'ai dû bien constater que ça m'avait affecté à un endroit assez profond et qu'il avait bien fallu que je fasse le deuil de quelque chose. Et effectivement, quand tu m'as proposé de participer à votre cycle, pour moi, ça me semblait un peu un bon moment de explorer un peu plus ça, une chose un peu cathartique, de aussi peut-être partager avec vous mes réflexions aussi qui ont suivi mes 3 années moi de départ de l'école d'art et comment ça touche à des choses, je pense, très singulières, individuelles, personnelles, mais aussi je pense à des choses plus collectives et plus politiques dans le cadre d'une école d'art.
Ouais, alors après les discussions qu'on a pu avoir pour préparer cette émission, il y a une question qui nous revenait souvent, c'était de quoi on fait le deuil ici, parce qu'en réalité le deuil il concerne quelque chose de beaucoup plus grand, et ces discussions ont engagé quelques pistes qui vont rythmer cette heure, donc on a un peu essayé de de séquencer cette heure avec différents items sur lesquels on reviendra au fur et à mesure de notre discussion.
On s'est dit donc qu'on allait commencer par ce qui est tangible, saisissable, quoi, ce qu'on a aujourd'hui mais qu'on n'aura bientôt plus. Il faut donc faire le deuil de ce lieu. Les murs de ce bâtiment qui vont bientôt entamer une nouvelle vie et qui seront le théâtre de nouveaux usages dont on a un peu hâte de les connaître. L'école en elle-même avait déjà changé de lieu une fois, quittant ces bâtiments historiques en centre-ville pour lancer un bâtiment des services centraux d'Usine Nord. Si on rentre un peu dans le perso, moi, faire le deuil d'un lieu, ça me parle. Je pense que ça parle à toute personne qui a quitté un jour son pays d'origine, même si c'est moi, j'ai la chance et le privilège de pouvoir y retourner. Et on a beau dire que c'est que du matériel, mais en ce qui concerne l'école, c'est bien plus que cela. Et j'en ai fait un peu l'expérience, en tout cas le constat. Et c'était au moment du Covid, on en entend parler beaucoup en ce moment, pour cette date anniversaire des 5 ans du premier confinement. Mais le premier confinement m'a vraiment montré ce qu'était l'école pour les étudiants. Donc c'est un refuge, c'est là où sont les siens, c'est une connexion Wi-Fi, de l'élec qu'on ne paye pas. Et à l'époque, parce qu'on pouvait encore le mettre, c'était du chauffage, pour au moins une partie de la journée. C'était un safe place, un cadre, il y avait un engagement mutuel, que ce soit de la part de l'équipe ou pour les étudiants, mais il y avait un lieu qui était là, qui allait toujours être là. Et le premier confinement, du coup, c'était un aperçu de ce que c'était un monde, un quotidien sans ce lieu. Donc l'école, je le vois vraiment comme une sorte de garante de deux mondes. On a dit pour la première émission avec Sophie Coiffier qu'il y avait un extérieur et il y avait un intérieur, un dedans et un dehors, on l'avait appelé comme ça. Et c'est, je trouve vraiment un peu l'école pour moi qui peut être la garante de ça, à cette période de la vie des students en tout cas.
Alors, on se dit qu'on peut essayer de voir l'école comme une entité, comme un corps physique et ontologique, symboliquement entériné. C'est un corps qui abrite, tu disais, un refuge, des vies, des pensées, pour ne pas dire des convictions aussi. En ce qui concerne le deuil de ce corps, qu'advient-il quand ce corps n'abrite plus la vie? Quel sens prendra-t-il? Dans La Maison, Marie-Ange Breyer, du coup, questionne la signification d'une maison vide. Je la cite. « Son dénuement renvoie à une absence, un vide narratif, qui exténue tout paradigme où la maison génère une expérience de dépropriation de soi, où aucun mécanisme d'identification, réconfort des objets ou des individus n'est possible. »
Alors, si on peut aussi regarder chez Heidegger, par exemple, au moment où le bâtiment, donc la maison, le lieu, est exempt de vie, il dit qu'il est décorpéisé. Je savais que j'allais fourcher sur décorpéisé. Donc cette expérience, elle serait alors semblable au moment où le corps du défunt n'est plus saisi par la vie. Alors pour l'humain, nous avons un devoir envers les restes du corps, envers le cadavre. Nous lui apportons du soin aussi pour l'après. L'image de la vie de celle et ceux qui l'a habité est transposée au corps. Il y a une cérémonie, il y a un rituel, on va aussi revenir à la fin, parce que nous aussi, on se fabrique des rituels à l'école, comme on peut. Et donc, on doit dire adieu comme ça au matériel. Puis, il y a une commémoration.
Donc, les murs de l'école, en tout cas, les qualités matérielles de ce lieu, sont semblables à la coque que constitue le corps humain. Par exemple, Robert Harrison, donc l'auteur de l'ouvrage « Les morts », explique que la mort d'un lieu est double, parce qu'elle menace la sécurité, la continuité et la survie. Il s'appuie notamment sur l'idée chez Thoreau dans Walden dans les bois qu'un corps sans maison est un corps sans chemise. Donc la citation, c'est « Nos chemises sont notre libère, notre vraie écorce, qu'on ne peut retirer sans sévrer à mort et ainsi tuer l'homme. » Selon Harrison,
un homme vit toujours à l'intérieur de quelque chose qui n'est pas son corps, mais qui lui est consubstantiel. Comme l'écorce peut l'être pour l'arbre, Et les humains ne sont donc pas des créatures nues, purement instinctives, mais plutôt des créatures qui habitent dans des replis du temps où le passé est transmis à l'avenir.
Quand Thoreau parle de « libère » ici, ce n'est pas seulement au sens de l'écorce, mais aussi du livre, du récit, d'une narration. Chez Thoreau, par exemple, c'est son journal. C'est donc au sens de pouvoir créer un récit, donc la capacité d'imaginer, de créer des formes, la capacité de se projeter aussi peut-être, soit dans un ailleurs, soit peut-être dans un futur. Or, c'est finalement précisément ce qui se perd ici. On va y revenir justement à cette question sur la projection. Mais peut-être que c'est aussi la capacité de... Enfin, peut-être que cette capacité justement de narrer rejoint aussi la possibilité de faire mémoire. Donc c'est pas seulement la capacité de se projeter, mais aussi de mémorer en fait ce lieu. Et à contrario, la difficulté de faire mémoire quand on ne peut plus parcourir les murs, les salles de cette école ou ce lieu qui n'existe plus.
Ouais, c'est intéressant dans le cas de l'école d'art. De comment se remémorer le lieu. Moi, ça m'a... Enfin, j'ai trouvé ça... Je pense que j'ai compris cet après-midi en visitant l'école avec vous que ce qui fait la spécificité de ces lieux... En fait, c'est marrant, c'est comme si on s'en rendait pas compte jusqu'au moment où on te dit que ça va fermer, ça va s'arrêter. Et j'ai l'impression qu'il y a dans la proposition qui est faite là par Thoreau et par Harrison, il y a un truc qui est mis à l'épreuve par l'école d'art elle-même, qui justement, c'est un lieu. Mais ce qu'il y a de matériel à l'intérieur, c'est quand même tout un tas de machins dont la particularité, c'est plutôt des qualités d'agencement du matériel. Et je me demande comment tu fais pour te remémorer ça. On en parlait tout à l'heure en visitant les ateliers techniques. En fait, les compétences techniques qui sont déployées ici par les enseignants, les enseignantes, les assistants d'enseignement, qui est le terme sympa pour parler des gens qui, enfin, le terme sympa, non, le terme dédié pour parler des gens qui en fait font l'apprentissage, s'occupent de l'apprentissage technique des students. Une de leurs qualités, c'est souvent d'articuler tout un tas de savoir-faire et de compétences techniques et d'expériences techniques qui peuvent venir d'endroits parfois très différents, qui parfois sont en plus des connaissances obsolètes par rapport aux environnements industriels dans lesquels ils ont pu se former. Je pense à mon année de post-dip à Lensballion et à la presse à Épreuve Offset. Je pense qu'il n'y a pratiquement plus personne dans le monde industriel en France aujourd'hui qui se sert de ce matériel-là, parce qu'en fait, ce matériel est industriellement obsolète. Par contre, dans les écoles, il permet de faire de la formation, il permet de faire de l'expérimentation. Et puis là où ça devient super intéressant, c'est quand il rentre en articulation avec d'autres procédés techniques. Et du coup, on perd un truc là. Et ce qu'on perd, c'est pas juste du matériel, c'est cette capacité à articuler de la créativité matérielle. Et ça, du coup, je me demande bien comment on peut se le remémorer, en fait.
Oui, moi, je pense qu'en faisant le tour avec toi de l'école cet après-midi, je l'ai un peu redécouverte à travers tes yeux. Enfin, je pense que j'ai jamais autant fait attention à tout ce qu'il y avait ici que là. Et je me dis, ouais, quand on parle de libère, l'école, effectivement, c'est peut-être notre chemise. C'est peut-être aussi notre libère au sens libre, notre capacité de narrer. Mais en fait, au milieu de ça, il y a une quantité juste incroyable de choses, quoi. En fait, le matériel, moi, j'avais pensé plutôt l'évoquer au sens symbolique. Et en fait, c'est quand même bien plus que ça, et que c'est une grosse question qu'on se pose et qu'on va devoir se poser. L'école, elle est... Enfin, il faut... Je parle pour les personnes qui nous écoutent. L'école, elle fonctionne, quoi. On vient tout à fait tous les jours, les étudiants sont là, les diplômes vont avoir lieu, et du coup, forcément, l'école, elle vit, les ateliers sont remplis de choses. Et la grosse question, c'est que la demande de rendre une école vide, comment, comment est-ce qu'elle peut avoir lieu? Ce serait quoi le processus, quoi, pour vider cette école, pour rendre la maison vide dont parle justement Breyer dans cet ouvrage?
Je rajouterais aussi quelque chose, parce que tu parles du vivant, et en fait, moi, c'est ça aussi, c'est que c'est un corps, cette école. Moi, je trouve ça assez incroyable quand, en fait, on est dans les bureaux de l'administration au premier étage, on entend le compresseur qui s'allume, on sait que c'est l'imprimante 3D céramique qui est en marche, on va voir, et puis une porte ouverte. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'organe vivant dans cette école, moi, que je trouve assez fascinant, et qui est dans beaucoup d'écoles, hein. On n'est évidemment pas la seule, en fait, à avoir cette vie comme ça, cette espèce de porosité dans les espaces, cette possibilité de jeter un petit coup d'œil comme ça à travers la porte ouverte d'un cours, voir ce qui s'y passe, d'avoir des agents qui vont aussi assister aux cours d'histoire de l'art parce que aussi ils sont intéressés par ces questions. Enfin, c'est cette question du vivant, et c'est vrai que ça paraît absolument abyssal de s'imaginer cette école vide. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas. Ce que tu dis, comment on va faire? On peut pas le faire, c'est impossible. C'est-à-dire que nous, elle ne peut être que vivante, cette école. Alors, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais malgré tout, il y a quelque chose de très insaisissable dans comment une école peut vivre, et qui est encore une fois propre à chaque école. Hein. On a visité pas mal d'écoles au fur et à mesure, et il y a des dispositions toujours. Alors là, tu parlais d'agencement. Architecturalement, il y a des écoles qui sont des anciens collèges, il y a des écoles qui sont de nouveaux bâtiments. Nous, on a la chance d'avoir une école qui est avec beaucoup, beaucoup d'espace de circulation aussi, qui permet peut-être ça aussi d'ailleurs.
Oui, puis en fait, tu viens de parler de vivant, et juste avant, on vient de parler de matériel et de savoir comment, en fait, on va pouvoir et devoir liquider tout ça. Est-ce qu'on va le faire, nous? Et dans ce rapport, en fait, du vivant et du matériel, c'est qu'aussi tous ces trucs qui sont là, c'est aussi des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un rythme justement d'utilisation des machines qui est ronronnant, parce qu'en fait, on aurait optimisé en fait qu'il fallait à tel rythme utiliser. Bon, là, on n'a pas de presse à offset, mais par exemple, la sérigraphie, on l'utilise assez peu, et quelque part, à la fois, c'est dommage, mais c'est aussi en fait une possibilité qui est là. Et on n'a pas à penser les choses. Dans quelque chose de très calé, parce qu'en fait c'est des possibles qui sont offerts, et c'est justement tu parlais tout à l'heure d'agencement un petit peu, c'est ça, c'est des agencements qui sont possibles, et c'est ça qu'on perd, quoi. We'll be right back. parlions juste avant de la qualité de ces écoles à pouvoir permettre des agencements, à être des lieux un peu d'expérimentation, de penser des relations techniques, humaines. Et du coup, parlons aussi de cette situation que crée l'école, que sont les écoles d'art. On doit faire le deuil de cette situation, d'un environnement de travail qui a des caractéristiques spécifiques à part entière, pour les étudiants, les étudiantes et pour nous-mêmes, enseignants, enseignantes, pour le personnel technique qui nous accompagne, bien sûr, dans cette mission d'enseignement, pour le personnel administratif qui crée et qui favorise les conditions de ce vivre ensemble, de cet apprentissage collectif de l'art, de cet écosystème si particulier qui mérite qu'on s'attarde dessus. Alors, quand on évoque le statut privilégié d'enseigner dans une école d'art, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce qui est en train d'être démantelé, d'être déconstruit ici, en ce moment même? Peut-être qu'évoquer la découverte des écoles d'art sous la lumière de l'expérience personnelle pourrait permettre un peu de mieux saisir ce qui fait leur spécificité. Alors, moi, pour ma part, j'ai découvert ce type d'école, pas à Valenciennes, mais à Valence. Je crois l'année scolaire 2009-2010. Il n'y avait pas encore le régime d'unification, je crois, des EPCC. C'était pas l'école supérieure d'art et de design de Valence, mais c'était l'école régionale des beaux-arts de Valence. Je venais d'un BTS de communication visuelle. Une pensée qui était beaucoup plus, on va dire, plus professionnel, qui laissait moins place à l'expérimentation. Moi, j'ai assez peu de connaissances du monde de l'art et du design. En fait, quand je suis sorti, quand j'ai décidé de faire de continuer en études supérieures après le bac, je savais pas quoi faire. En fait, je me suis même inscrit par défaut. J'étais en bac éco et donc j'ai fait un mois de fac d'éco gestion à Grenoble. Et j'ai bien vu, enfin un mois en fait, j'ai dû faire trois cours. Et j'ai compris très vite, au bout de plusieurs heures, que je pouvais pas faire ça. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah je fais un peu de dessin, faut que je fasse quelque chose. J'ai fait un BTS de communication visuelle à Lyon dans un truc privé parce que j'avais pas un bon dossier pour faire ça. J'étais pas un super lycéen assidu. Et j'ai pensé tout de suite à quelque chose qui était un peu style art appliqué. Et pour moi, en fait, les beaux-arts, c'était un truc où on peignait des sortes de croûtes, parce que j'avais pas du tout de connaissance, en fait, du milieu de l'art contemporain. C'était pas du tout mon truc. Et j'ai compris le potentiel des écoles d'art à partir de la formation de BTS de communication visuelle, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui écrivaient sur leurs pratiques, que c'était quelque chose qui était beaucoup moins tenu. En fait, il y avait pas un peu de cahier des charges pédagogiques ou des sortes de méthodes un peu toutes faites. On sentait que je mettais pas ces mots-là à l'époque, mais on sentait qu'en fait, qu'il y avait des personnes qui s'individuaient dans ces espaces-là, ou à l'intérieur d'un champ de pratique. Et du coup, cet instinct d'aller à ces endroits-là où on pouvait inventer ou réinventer soi-même, se réapproprier, en fait, des outils, des techniques, des savoirs d'une pratique, j'étais plutôt conforté là-dedans. Et pour moi, ça a été assez libérateur de pouvoir arriver dans une école d'art et de design, quoi.
Je vois que tu me regardes, moi je veux m'y aller. Alors moi, c'est vrai que j'ai une position un peu plus particulière dans le sens où je suis un administratif. Ou pour reprendre le terme de nos camarades René qui sont venus il y a deux semaines, je suis le gérant ou le tenancier. J'aime beaucoup cette question du gérant, ça me va plutôt. Je viens pas d'école d'art, je viens d'école d'architecture. Donc, cette question d'agencement, de construction, elle est là. Alors après, moi, on va dire que j'y reviens toujours, mais pour moi, c'est ce que j'ai l'impression qu'on a réussi. On réussit quand même à faire ici, malgré les exigences de toutes parts, de faire des tableaux et des tableurs, d'arriver à faire des tableurs aux lignes molles. J'y reviens toujours, mais en tout cas, on arrive comme ça à essayer d'être un peu baroque dans nos manières de faire et qui fonctionnent, qui pour moi je pense sont absolument nécessaires. Il faut se dérigidifier en fait pour pouvoir travailler dans une école d'art et pouvoir faire des choses et pouvoir se dire que l'année elle est pas calée un an à l'avance. Donc voilà un peu comment je vois un peu mon entrée dans l'école. C'est difficile en même temps quand on en parle souvent. Quand on est dedans, de pouvoir se dire, d'expliquer en fait et d'analyser la manière avec laquelle on travaille, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre presque des mots comme ça qu'on voit un peu partout, de organique, horizontal. Je crois qu'on y arrive. Et encore une fois, moi, je me place à un endroit administratif où on essaie de coordonner, de superviser les choses. De manière horizontale, et je crois que en école d'art on arrive à le faire, parce que bon, faut aussi rappeler que il y a quand même beaucoup de confiance, voire beaucoup d'amitié en fait aussi entre nous, au sens où on s'inscrit comme une communauté. Et ça, alors c'est pour l'anecdote, quand nos amis de Les Adars, donc de j'ai dit René, c'est Rouennais, pardon, Rouennais, sont venus on a senti un peu, alors ils sont venus, ils étaient 18, sachant que les étudiants aujourd'hui, il y en a 19. Ça a doublé l'effectif. Et c'est très étrange, comment dire, où on a senti qu'en fait, ça fait 4 mois qu'on est 5 mois qu'on est là. On est vraiment entre nous. Je m'en étais pas aperçu à quel point on était entre nous et à quel point on était solidifié comme une espèce d'entité comme ça, où forcément quand on est 20, 30, 40, alors, il y a eu quand même cet effet d'intrusion, si je puis dire, sans dire que c'était des intrus, mais qui a révélé, en tout cas pour moi, et puis j'en ai discuté avec certaines, cet effet de communauté extrêmement resserré qu'on a généré un peu sans s'en apercevoir.
Moi, je suis un pur produit des arts appliqués, en fait, à l'origine. Et effectivement, je me retrouve plutôt dans ta description, Sébastien. C'est des études qui sont professionnalisantes. En plus, moi, je m'en suis remis une deuxième couche parce que j'ai fait une prépa N7, donc normal sup avec pour l'enseignement technologique. Donc il y a vraiment ce moment où à 18 ans, on te dit, tu passes le concours, tu signes un contrat décennal, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, tu le signes avant de passer le concours. Donc on est déjà en train de te dire, un employeur, à savoir l'État, est en train de te dire, tu me dois 10 ans de ta vie. Bon, je l'ai pas eu, j'ai fait d'autres trucs, mais je suis resté du côté du design, et puis j'ai enseigné aussi assez rapidement, mais plutôt du côté du design. Et en fait, moi, je suis rentré dans les écoles d'art, que très tardivement, en fait, il y a 3 ans maintenant, la première fois que j'ai été student en école d'art, c'est quand je suis rentré dans le post-dip des Beaux-Arts de Lyon. Et j'y suis rentré notamment en étant un peu fatigué de la production théorique, parce que c'était plutôt là où j'étais avant. Et c'est super intéressant parce que j'ai compris, en tant que prof, ex-prof de théorie qui... souvent, vous voyez certaines students déserter ces cours. Alors toujours les mêmes, les gens qui, les students qui s'étaient un peu dit, ou à qui on avait dit déjà depuis longtemps que la théorie, tout ça, c'était pas pour eux, c'était chiant, tout ça. Bah en fait, j'ai compris en étant moi-même énormément en atelier à Lyon qu'en fait ces students, ils étaient juste en atelier, puis ils étaient en train d'essayer de penser autrement. Et en plus que c'était pas forcément facile de penser. En atelier non plus, avec l'atelier, que c'était pas un truc de fainéant qui arrive pas à penser tout seul et qui fait des tours Eiffel en bâton de glace, quoi, pour faire passer le temps. Et du coup, bah, c'est assez marrant parce que 3 ans plus tard, donc moi je suis en train de faire un doctorat par la pratique, et j'ai à nouveau énormément de mal de retourner vers la théorie, parce que y a quelque chose dans l'atelier en école d'art à débloquer un truc dans ma tête. Alors, et c'est pareil, y a des fois c'est dur, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce que je fais, je suis dans des impasses, mes formes me plaisent pas, je trouve que c'est fragile, que c'est faible, je m'en sors pas. Donc je me pose les mêmes questions, mais par contre je crois que je préfère la façon dont je me les pose maintenant, et ça clairement c'est l'école d'art qui me l'a donné, quoi. Et je trouve ça, en plus de ça, c'est vertigineux et enthousiasmant que, en fait, l'école, elle m'a encore donné ça à 45 balles, quoi. Donc, c'est vraiment très cool. C'est un peu, j'imagine même pas. Moi, c'est un cadeau que je me suis fait et que j'ai la chance de pouvoir me faire, parce que ma vie m'a permis de le faire. Mais c'est aussi fou de se dire que, y a des gens qui, en fait, qui se rendent pas compte dans les endroits où ils sont, que, en fait, ils ferment des endroits, c'est pas juste des endroits de liberté, c'est des endroits de super exigence, mais des endroits d'exigence à un endroit où, en fait, le monde d'aujourd'hui, comme il est foutu, se rend pas compte de la valeur, et pas au sens capitaliste, de cette exigence-là et de ce que ça produit.
Ben, moi, je me rends compte en pensant à ça avec vous que, en fait, j'ai été dans toute ma vie d'adulte rattachée d'une façon ou d'une autre à une école d'art. Et c'est assez vertigineux parce que moi, ça veut dire que mon écosystème, ma vie d'adulte telle que je la connais aujourd'hui, elle s'est littéralement fondée, les briques, elles sont posées, en fait, sur cette institution. Et que la rentrée prochaine, potentiellement, sera la première rentrée où je ne suis ni étudiante, ni chercheuse, ni enseignante dans une école d'art et design territorial. Donc, waouh. Et comment je suis arrivée là, c'est un peu une histoire banale, quoi. J'avais eu la chance de pouvoir faire des écoles Steiner quand j'étais en Angleterre. Au milieu de mon adolescence, mes parents ont eu la fausse bonne idée de me mettre dans une école privée en France pour mon lycée. Du coup, c'était littéralement 3 ans à désapprendre tout ce qu'on m'avait appris jusqu'à là. Désapprendre comment on doit apprendre les choses, comment on doit regarder le monde, comment on doit écouter des personnes qui sont appuyées dans une position dominante par rapport à la mienne. Et du coup, ça a été une bouffée d'air de retrouver les beaux-arts. Danger en ce qui me concerne, parce que du coup même si il m'a fallu encore un an pour me remettre en tête que c'était à nouveau possible de réfléchir de cette manière-là, c'était une manière de pratiquer qui me parlait. J'avais dans ce lycée eu une prof d'art plat qui m'avait conseillé de tenter les beaux-arts. Il me fallait une école publique. J'étais, ce qu'on peut dire, bon en art plastique, quoi, pour un niveau lycée. Et franchement, ça s'est tenu à ça, quoi. Ils se sont dit, tu sais pas trop quoi faire, t'as qu'à tenter les concours des beaux-arts. Et heureusement que j'ai fait ça. Par rapport à l'écosystème, ce que je voulais dire assez rapidement, c'est que non seulement je me suis pas mal construit par rapport à ça, mais c'est vraiment des histoires de rencontres. C'est évidemment pas qu'un lieu comme moi. Je sais que mes profs ont eu une place très importante dans ma vie, quoi, dans ma construction, et continuent d'avoir une place aujourd'hui, quoi. Ils sont devenus des amis, ou en tout cas vraiment des repères. Et je pense aussi que c'est important aussi qu'il existe des lieux où ça c'est possible, quoi, où si on continue de se voir et de se parler et puis de travailler ensemble derrière. Et je pense que il y a encore assez peu d'endroits, même dans des niveaux d'enseignement supérieur, où c'est totalement possible. Donc je pense que c'est le deuil de ça ici. Mais c'est un besoin de me dire que c'est possible de le retrouver ailleurs, quoi.
Je me permets, dans ce que tu dis, dans ton parcours, quand tu es passé d'une scolarité Steiner à un moment donné un lycée français où tu as dû désapprendre un peu des choses. Alors moi, je l'interprète comme ça, c'est aussi désapprendre une pensée qui est un peu synergique, Steiner c'est anthroposophique, donc on va essayer, je pense, de décloisonner un peu les choses et on met de tout dans tout, un peu d'une certaine manière.
Ouais, c'est aussi un peu un écoute de soi, de se dire aussi, je pense que, je parle par rapport à ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, c'était que ce qu'on m'avait appris, c'était que si j'avais envie d'aller en cours, c'était bien, quoi, parce que dans ce cas-là, j'étais dans un bon état d'esprit et que du coup, j'allais mieux apprendre, j'avais envie d'être là. Et que, par contre, si j'avais plus envie d'être là, je pouvais aussi me barrer et me lever et partir. Et c'était pas un manque de respect parce qu'on comprenait que j'avais besoin de ça. Et que du coup, c'était jamais fait comme un manque de respect ou de rébellion, je sais pas quoi. Mais par contre, au lycée, c'était juste perçu comme ça, quoi. Donc, quand tu te lèves et que tu pars de la classe, parce que tu dis que t'es plus très concentré et que du coup, c'est pas la peine, bah là, t'es collé direct, quoi. Et que du coup, c'est difficile de construire aussi un parcours pédagogique où, sans cesse, pour toi, les règles sont insensées. Elles sont pas adaptées, quoi, pour une pédagogie.
Et ça, c'est des trucs que t'as retrouvés, du coup, en école d'art.
Ouais.
Moi, je voulais profiter de votre invitation pour prendre un temps pour réfléchir à qui touche cette fermeture, en fait. Parce que mon intuition, quand tu m'as contacté, c'était de dire qu'en fait, sans le savoir, tout un territoire est potentiellement en deuil de la fermeture de cette école. Et pour un peu orienter cette réflexion, je voulais partager avec vous une lecture d'un texte de Bell Hooks qui s'appelle « La théorie comme pratique libératrice » et que en fait, j'associe pas mal à ce que les écoles d'art peuvent nous donner collectivement. Je ne me sentais pas réellement connectée à ces gens étranges, à ces gens de ma famille qui non seulement échouaient à saisir ma vision du monde, mais qui simplement ne voulaient pas en entendre parler. Enfant, je ne savais pas d'où je venais. Quand je ne cherchais pas désespérément à appartenir à ma communauté familiale qui semblait ne jamais vouloir m'accepter ou me vouloir, j'essayais désespérément de découvrir à quel endroit j'appartenais. J'essayais désespérément de retrouver le chemin de la maison. Comme j'enviais Dorothy et son voyage dans le Magicien d'Oz, elle qui voyagea vers ses pires peurs et cauchemars pour finalement découvrir à la fin que rien ne vaut son chez-soi. Je trouvais un refuge dans la théorisation, en donnant un sens à ce qu'il se passait. J'y trouvais un endroit où je pouvais imaginer des futurs possibles, un endroit où la vie pouvait être vécue différemment. Cette expérience vécue de pensée critique, de réflexion et d'analyse l'était parce qu'elle était un endroit où je travaillais à expliquer la douleur et à la chasser. Fondamentalement, j'appris de cette expérience que la théorie pouvait être un lieu de guérison.
Alors, outre l'impact direct sur les salariés et sur les étudiants, on devrait se demander ce que l'agonie des écoles jusqu'à leur fermeture fait au territoire. C'est-à-dire que c'est savoir qu'il y a une école dans une ville proche, à un endroit où on n'est pas complètement déraciné, dans un endroit où on se sent le courage de se projeter, parce que ce n'est pas trop loin de là où on vit, c'est une porte qui est offerte à l'imaginaire des ados du coin. Ça veut dire qu'il y a des endroits où, même si soi-même on ne s'imaginerait pas faire une école d'art, on sait qu'il y en a une. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on a l'habitude de voir des petits jeunes habillés de façon originale, qui font parfois des trucs un peu étranges, qui dessinent dans la rue, qui ramassent des machines pour faire de l'art, des endroits où tout le monde apprend à vivre avec cette originalité. Qu'on l'apprécie, qu'on la moque ou qu'on s'en fiche. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on sait que c'est possible et que ces trucs-là, l'art et cette culture contemporaine qui se cherche, qui bouge, c'est une chose avec laquelle on peut vivre, qui fait partie du quotidien et que ça peut même faire partie de la vie.
Et puis, bah, y a tous les autres endroits, ceux où cette porte ne peut jamais être ouverte, où cet imaginaire-là n'est pas présent, où c'est pratiquement impossible pour les ados qui ne bénéficient pas du capital qui donne de l'importance à la culture, de désirer l'école d'art. Parce qu'elle n'existe pas dans leur imaginaire, ni dans celle de leurs parents, ni dans celui des profs de leur lycée, ni dans leur ville. Et le problème, c'est que plus le temps passe, plus cet endroit il s'étend. Plus le temps passe, plus nous sommes nombreux que ça devoir faire le deuil de ce que la culture peut pour nous. Plus le temps passe, et plus notre horizon il s'assombrit. Plus nos imaginaires ils rétrécissent et moins quelque chose nourrit nos esprits. Et est-ce que fermer une école, finalement, c'est pas baisser le rideau sur l'idéal d'émancipation individuelle et collective que porte la culture bien au-delà de les murs de l'école, des murs de l'école?
Ouais, à ce sujet, j'ai été contactée par une étudiante il y a quelques semaines qui voulait parler de son projet de diplôme. Et à la fin de notre discussion, elle m'a posé une dernière question un peu chargée. Et la question, pour la reformuler, c'était plus ou moins, est-ce que de un, j'y croyais encore? Et est-ce que de deux, c'était vraiment possible de vivre de ça? Elle me présentait d'un projet qui entrerait dans ce qu'on appellerait du design social. Et elle voulait que je la rassure, et que je lui dise, mais oui, tu peux vivre de ça, tu peux payer un loyer, enfin, c'est possible, quoi. Il y a les moyens aujourd'hui, tu peux trouver ta place. Et ce qui m'a vraiment frappée, elle m'a pris à court, parce que d'habitude, j'ai plus ou moins ce discours-là, même si j'essaie d'être réaliste. Et là, avec tout ce qui est en train de se passer, je crois que j'aurais pu mettre presque à pleurer, quoi, parce que j'avais envie de lui dire d'y croire, quoi. Il faut y croire, et c'est ce que j'ai essayé de dire, mais qu'en ce moment, on vient nous prendre par tous les côtés, quoi. Et c'est ces projets-là qui sont en train de tomber, et qu'en plus de ça, moi, mes repères quand j'étais à sa place, quand je passais mon DEDCEP, moi, c'était mes profs, quoi. Je me disais, mais eux, ils arrivent. Donc, ça veut dire que c'est possible, quoi. Et moi, je lui parle alors que dans 4 mois, l'école où je travaille, où j'enseigne, va fermer. C'était un peu plus difficile pour moi d'être ce repère-là, quoi. Et j'ai pas de conclusion ou de solution à ça. Mais ça, c'est vraiment... C'était une grosse claque par rapport à ce à quoi on fait le deuil, en fait. Parce que c'est vrai que la possibilité, la capacité de se projeter, quoi, de voir une continuité de ça, devient de plus en plus compliquée.
Ah, mais c'est la raison pour laquelle j'avais accepté ton invitation. C'est parce que c'est un truc... J'ai mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que partir de mon job et me sentir un peu forcé de devoir partir parce qu'il y avait quelque chose qui avait mal tourné dans l'école, parce que les écoles, elles souffrent tout simplement, et je pense que vous en êtes l'illustration paroxystique, elle va fermer, mais la plupart des écoles vont très mal, n'importe quel prof dans n'importe quelle école de Beaux-Arts, il n'y en a pas un qui te dit c'est super, alors que c'est qu'il est sous anxio depuis un an et demi, quoi.
Et même sous anxio.
Moi, j'ai choisi de faire la prépa normale sup à 17 ans parce que je voulais enseigner, parce qu'on m'avait transmis des choses que j'avais envie de transmettre à mon tour, et notamment transmettre des outils pour regarder le monde qui m'ont émerveillé et enthousiasmé, et puis qui m'ont aussi permis de trouver ma place. Je suis une personne queer qui vient de la campagne. Et quand j'ai lu l'extrait de Bell Hooks, cette sensation d'étrangeté dans l'endroit duquel on vient, je l'ai vécu très fort. Et moi, clairement, c'est l'art et la culture qui m'ont, je pense, littéralement sauvé à un moment dans ma vie. C'est que ça m'a donné une croyance fondamentale dans le fait que même si je rencontrais pas à 14, 15 ans des gens comme moi, je savais qu'ils existaient. Je savais qu'il y avait des gens qui pensaient de façon chelou, qui regardaient le monde de façon chelou, qui se sentaient traversés par des émotions, des pensées, à la marge, en dehors de la norme, etc., etc. Et qu'en fait, ces endroits sont l'air de rien des lieux où tout un tas de jeunes gens se sentent pas à leur place, peuvent trouver une place, et souvent trouvent une place, et même construisent une forme de normalité dans le fait de être les anormaux, et d'une certaine manière obligent les autres à vivre avec eux, en fait. Je pense que c'est pas rien pour une ville, a fortiori une ville de province, a fortiori une ville dans un territoire qui lui-même a traversé des moments de souffrance historique hyper forts, comporte encore les séquelles. C'est pas rien de savoir qu'il y a des endroits comme ça où les gens qui rentrent pas dans le moule peuvent trouver une place et transformer un tout petit peu la société ou le monde dans lequel ils vivent autour d'eux, se rendre acceptable pour leurs parents, se rendre acceptable pour leurs voisins, se rendre acceptable pour les gens qui sont juste là dans la rue. Et à partir du moment où tu fermes une école, cet endroit, il disparaît. Et l'imaginaire qui va avec lui disparaît aussi. C'est un peu... Enfin, tu mets une école d'art dans une ville, les gens, ils apprennent à vivre avec d'une certaine façon. Ils ont l'habitude des petites conneries des étudiantes et des étudiants d'art. Et en fait, ça se met à faire partie de la psyché collective. Et je me demande vraiment ce qui se passe quand on enlève ce truc-là. Qu'est-ce que ça... Je crois que ça fait rétrécir l'esprit de tout le monde, en fait. Et je pense que ça, c'est vertigineux. Et au passage, je pense qu'on y met aussi beaucoup d'idéalisme. Et je sais que c'est aussi pour ça que ça a été difficile et que je considère que j'ai dû faire le deuil d'idéaux liés à cette puissance de transformation de l'art et de la culture. Quand à un moment donné, je me suis dit « Ah putain, je jette l'éponge, l'école d'art, c'est en train de devenir vraiment... » trop compliqué, quoi. Et ça rejoue un peu ce que disait ton ancienne étudiante, quoi. C'est genre, comment on fait quand on commence à douter de ce qu'on est en train de faire et de la puissance de ce qu'on fait? Et ils sont où les autres, en fait? Ils sont où tout le reste du territoire, il est où pour se poser la question avec nous, en fait?
Oui. C'est super fort ce que tu dis, et je pense que ça rejoint assez bien la question qu'on avait envie de développer par la suite, qui est vraiment l'esprit collectif. Donc, ce qu'on doit aussi faire avec la fermeture de cette école, c'est de faire le deuil d'un esprit collectif. Dans une communauté qui constitue une école d'art, il y a des individus qui font plus que la somme des individus. Et ce plus est généré par la capacité qu'elles ont trouvée à s'organiser, à vivre ensemble. Cet esprit collectif d'équipe ou cette intelligence collective est vraiment propre à chaque équipe, chaque entité d'école. Et pour parler de ça, Sébastien, il a placé justement le terme d'égrégore, qui est parfois mobilisé pour chercher justement à exprimer ce concept. Donc on va donner une définition là qui a été donc rédigée par Lucille Olympe-Haute à propos justement du travail de Camille Lamy dans le numéro 51 Formation de la revue Azimut.
Ce dont l'action collective peut provoquer le surgissement est l'égrégore, une force psychique générée par les émotions de plusieurs personnes qui se manifestent comme une entité, un petit démon répondant à une invocation collective. Égrégore peut être un terme de magie ou un terme littéraire pour nommer l'ambiance d'un lieu tel un café occupé par une communauté.
On peut aussi signaler une autre définition du mot, celle donnée par le Robert.
Égrégore, nom masculin en se référant au grec ecclésiastique égrégoros, qui veille, vigilant. Citation de la Bible, livre d'Enoch. Chacun des anges qui s'unirent aux filles de Seth qui veillèrent sur le mont Hermon avant de les posséder.
On sent que pour veiller, il faut être réveillé. Il y a donc l'idée d'ouverture, aussi bien que l'idée d'accomplissement, de surgissement, des anges wokistes. Parce que quand on discutait il y a 2 semaines lors de notre visio pour penser un peu à l'émission de ce soir, on disait qu'il y avait la précarisation de notre secteur, celui de l'art et du design, et plus largement celui de la culture aussi. Et que ça, souvent, on le dit comme s'il y avait une forme de désintérêt, un petit peu. On pensait à l'exemple de, par exemple, pendant la pandémie du Covid, il y avait ces choses qui n'étaient pas nécessaires, donc en fait, les librairies n'étaient pas ouvertes. On pouvait aller dans les supermarchés, mais en fait, on entourait de rubalises, de rubans, le rayon librairie et le rayon culture, en disant on va consommer uniquement dans les gondoles qui concernent les trucs alimentaires et soi-disant nécessaires. Et on sent que aujourd'hui, il n'y a pas qu'une question de désintérêt, comme si, genre, en fait, on connaît pas, c'est loin de nous. Il n'y a pas qu'une question de désintérêt des élites économiques pour le monde de la culture, mais cette précarisation, elle peut être également comprise comme quelque chose qui est de l'ordre de la lutte, comme étant plus sûrement la volonté, en fait, de ces élites de maintenir ou de dégrader l'ordre social et économique en place, en s'attaquant aux marges, où se pensent des alternatives queer, féministes, écologistes, anticapitalistes, woke, éveillé, éclairé, qui justement déconstruisent un peu la société ou permettent de faire émerger des propositions artistiques alternatives.
Et donc les actes qui prennent fin, c'est pas seulement le rouleau compresseur des politiques austéritaires qui nous passe dessus, c'est pas seulement par la nécessité de prioriser les dépenses, mais c'est aussi assécher des foyers de contestation qui produisent d'autres champs des possibles. On peut trouver une super idée pour le futur en fouillant son passé, en puisant de la force, du réconfort, de l'inspiration et un début de connaissance dans une évocation d'un fait passé ou d'une expérience agréable. Se remémorer quelqu'un peut être un bon truc. Invitez donc un mort dans la pièce Voici quelques conseils pour parler aux morts.
Protocole, étape 1. Calmez-vous et faites le vide dans votre esprit, comme si vous vous prépariez à méditer. Asseyez-vous dans un endroit calme et libre de toute distraction. Fermez les yeux et videz votre esprit de toute angoisse et de toute pensée. Déplacez votre concentration pour aiguiser votre sixième sens. Si vous n'arrivez pas à établir une connexion en vous concentrant simplement sur l'image du défunt, suivez ces étapes plus structurées. Prenez conscience de ce que vous ressentez au moment présent. Observez le lieu, le moment et ce que vous ressentez. Autrement, il pourrait être difficile de revenir à vos sens plus tard. Une fois que votre conscience physique diminue, concentrez-vous sur l'énergie qui entoure la pièce. Ne la cherchez pas, mais restez ouvert aux forces présentes dans la pièce autres que vous-même. Si vous ressentez une présence, essayez de poser des questions. Sachez que les réponses que vous pourriez recevoir pourraient ne pas se présenter sous la forme de mots, mais d'images ou d'émotions.
Étape 2. Demandez une réponse à des questions simples concernant votre futur. Connectez-vous aux morts, à la morte. Cette technique est généralement pratiquée par les enquêteurs paranormaux qui essaient de parler avec les esprits dans un endroit qui est hanté ou potentiellement hanté. Poser des questions de base dont la réponse ne peut être que oui ou non et demander aux défunts de répondre selon une certaine méthode. Les coups et les lumières qui clignotent sont les méthodes les plus répandues de réponse. Pour les coups, demandez à l'esprit de la pièce de frapper une fois pour oui et deux fois pour non.
Variante. Vous pouvez également passer par le biais de supports. Vous pouvez employer l'écriture automatique ou la psychographie. Vous pouvez chercher un objet ou élément naturel et inviter votre défunt ou défunte à habiter dedans. En ce cas, évitez les questions par oui ou par non. Contentez-vous d'être traversé par des images éclairantes ou cryptiques que vous aurez plaisir à décoder. Servez-vous de ce qui vient pour de nouveaux plans sur la comète. Le tout dans la Sweat Lodge en essayant d'interpréter les nuages de vapeur.
Nous venons de lire un extrait de Grimoire, Futurology of Cooperation, tiré de la première partie, qui s'appelle « Explorer le passé et le présent ». Il est précisé que c'est Anna Chapsky qui a écrit ce passage après avoir consulté une page wiki dédiée à la communication avec les morts.
Aujourd'hui, réinvestir les pratiques folkloriques, les rites, ça constitue une forme de réaction assez stratégique pour penser le réel et se donner des méthodes pour penser le futur. Repenser les rituels, recréer des rites, le folklore comme lieu de retournement, de renversement de l'ordre social, par exemple. Dans l'école, c'est aussi forcément des choses qu'on est en train d'explorer, en tout cas de construire par nous-mêmes, parce qu'on essaie, comme on l'a dit en ouverture de ces rencontres, c'est à la fois cynique de se dire comment on ferme cette école d'art, mais c'est aussi une vraie question. Donc on cherche de construire les outils qui peuvent nous aider à le faire. Il y a eu une proposition justement l'an passé de faire un géant dans l'école. C'est un projet sur lequel travaille Sébastien, s'il peut nous en dire plus.
Bah, c'est assez drôle parce que c'est venu vraiment de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un lycée horticole qui nous a contactés pour faire... recréer en fait leur géant, comme ce lycée horticole du coin de Rennes, il a aussi une formation un peu en paysagisme. Il y a des compétences de pavage. Ils refont Paris-Roubaix. Ils avaient un géant à l'effigie en fait de l'ancien directeur du Tour de France, Jean-Marie Leblanc, qui plaçait souvent un peu sur le parcours du Paris-Roubaix, qui est un peu une sorte de mascotte pour eux, qui est un ambassadeur. Et c'est un peu... alors, ils nous ont contactés, mais bon, bah, finalement, on va plutôt faire, nous, notre géant. Le processus démocratique a fait émerger... Pour totémiser notre géant, la figure de Jean-Baptiste Carpeau. Du coup, grande référence classique du coin. Et, Et donc, c'est vrai que c'est assez drôle de voir que des choses de l'ordre du folklore, en fait, aussi pénètrent en ce moment, on va dire, les pratiques artistiques. On se réapproprie, en fait, ces choses-là. Nous, on va utiliser un peu ce géant pour montrer notre existence au moment où on se met à mourir. On dit que normalement il n'y a pas de mort de géant. Les gens, ça représente des corporations de métiers souvent qu'une localité utilise un peu comme une mascotte et faire valoir en fait des savoir-faire territoriaux. Et en fait, il y a des naissances, il y a des baptêmes de géants, et nous, on va baptiser notre géant au moment où on ferme l'école. Il y a un peu la question de savoir à qui on va le donner, donc comme une patate chaude. Et donc voilà. De quoi on peut parler aussi de pratiques, on va dire, d'intérêt pour le folklore dans ce qu'on fait actuellement à l'école. Il y a plusieurs choses. Déjà, on va la semaine prochaine organiser des journées d'études les 27 et 28 mars, justement dédiées à investiguer les pratiques folkloriques en art, mais de manière un peu à différents endroits. Ça pops dans les projets. Je sais que par exemple dans le projet qu'on fait ensemble, Elisabeth, sur les abeilles, finalement, on travaille avec, en tout cas, on a parmi les personnes avec lesquelles on dialogue, parce qu'on met une correspondance avec des personnes qui s'intéressent aux abeilles. Il y a par exemple l'anthropologue visuel Aladin Borioli qui s'intéresse beaucoup aux questions du folklore, qui a fait une enquête par exemple sur les bancs corbeux, qui sont des ruches sur lesquelles on va mettre des masques un peu, et qui fonctionnent comme des épouvantails pour éloigner les esprits. Voilà, ça c'est les exemples auxquels je pense spontanément.
Il y a aussi, peut-être que c'est l'occasion pour nous de réitérer notre invitation à l'événement des portes fermées, donc qui se tient le 27 juin, le vendredi 27 juin, notamment parce que c'est à cette occasion, pour donc la dernière journée de l'ESAD, qu'on aimerait penser à des rituels, à des rites, à peut-être des performances sur justement la baisse du rideau, quoi, notre dernier événement, avec, on l'espère aussi, le baptême de notre géant, à qui on passera partiellement le flambeau du nom, en tout cas, de l'ESAD de Valenciennes.
Peut-être aussi l'occasion d'une veillée radiophonique la nuit donc du vendredi au samedi. J'en profite donc, si certains et certaines l'ont vu passer, notre appel collectif, on a mis en place une messagerie vocale ouverte à des mots d'amitié, des conseils, des poèmes, des créations de toutes parts aussi.
Des témoignages.
Des témoignages, je l'oubliais.
Et donc, ça peut être pas seulement adressé à Valenciennes spécifiquement, mais on parle justement de la situation des écoles d'art, oui, justement sur tout le territoire français. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire et à faire émerger. Donc, du coup, vous pouvez aussi vous emparer de ce répondeur pour nous faire parvenir des échos, des feedbacks de ce qui est en train de se passer en ce moment. On les diffusera bien sûr pendant en fait cette dernière veillée. Ces soirées, journées, portes fermées, mais aussi on va l'utiliser, c'est un outil qu'on utilisera, on pense, pour les autres épisodes et les autres émissions de ce cycle. Donc du coup, décrochez votre combiné, je ne sais pas si ça se dit encore, mais c'est quoi le numéro? On n'a pas donné le numéro, ouais. Ouais.
Alors, le numéro, le 07 56 09 34 57, je le répète, c'est très à l'ancienne, 07 56 09 34 57. Allez, une troisième, 07 56 09 34 57. On n'est plus habitué à noter les numéros, donc faut le faire lentement.
On est en train de conclure lentement mais sûrement. C'est marrant, on a réussi à tout faire rentrer, c'est exceptionnel. Ouais, je voudrais juste pour ma part terminer là-dessus. Bah, vous avez pas trop le choix que de faire le deuil de votre école, qui que vous soyez dans l'école. Par contre, c'est un peu message perso pour les students. Je vous souhaite vraiment de pas vous retrouver à devoir faire le deuil de ce qui vous a poussé à y rentrer. Parce que je crois qu'on n'en a jamais eu autant besoin de ce désir de, bah, je sais pas, de se fabriquer de la place, même si on sait pas très bien comment. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup, Félix.
Merci beaucoup, merci d'avoir été là ce soir.
Et merci à Samson et Thomas pour la supervision audio.
Et toute l'équipe de du Radio.
Et toute l'équipe de Du, bien sûr. Les étudiants qui sont présents ce soir. Caroline aussi, qui fait tout le suivi logistique. Et donc, on va se retrouver le 29 avril à 18h, toujours en direct sur Du, depuis l'ESSAD Valenciennes. Et la prochaine édition, nous allons recevoir les chercheurs, chercheuses Pascal, Nicolas Lestrat et Valérie Yobé. On parlera un peu, voilà, comment faire recherche en commun, comment sortir de forme d'académisme de la recherche, proposer de nouveaux formats, voire de nouveaux modèles. Et on va se quitter ce soir, ça ne s'invente pas, avec le chant du cygne de Gérard Manset.
Sente que isso.